C'est l'info, votre double page info du week-end, Martin Arnaud.
Bonjour à tous et bienvenue, 33e numéro de C'est l'info. Au sommaire cette semaine, grève des cheminots, hausse de la CSG pour les retraités, limitation de vitesse à 80 km/h sur les routes secondaires dans un format inédit du 13h de TF1. Emmanuel Macron a disposé d'une heure jeudi 12 avril pour répondre aux questions de Jean-Pierre Pernaut depuis une école rurale de l'Orne. Nous y revenons dès le début de cette émission avec Franck Payanave et puis avec Benoît de Valicourt, conseiller en communication. Plusieurs missiles ont touché le 7 avril la ville rebelle de Douma dans la banlieue de Damas. Même si le régime syrien dément, de nombreux éléments et témoignages accréditent bien la thèse d'une frappe chimique. En termes diplomatiques, le ton monte entre les Occidentaux et la Russie. Explication de Bruno Tertrais dans cette émission. Nouvelle chronique également consacrée à Facebook. Après avoir consacré du temps au sénateur, Mark Zuckerberg s'est présenté mercredi devant les élus de la Chambre des représentants. En cause, le scandale Cambridge Analytica, entreprise qui se serait servie de nos données personnelles à des fins politiques. Ce sera le thème de la première revue de presse de notre nouveau chroniqueur, Michael Assoumou. Enfin, vous retrouvez également cette semaine la chronique de Fabien Herbert sur la Corée du Sud, ainsi que celle des Voix de l'Hexagone consacrée au traitement anti-tabac. Bienvenue à tous. Focus avec Franck Payanave de retour de vacances. Bonjour Franck.
Bonjour Martin, bonjour à tous.
Bon, j'espère que vos divers voyages un peu partout dans la France vous ont été positifs.
Oui, j'ai pu profiter un petit peu de découvrir ce merveilleux pays en voiture, ce qui m'a fait énormément de bien pour venir en pleine forme.
Allez, plus sérieusement, on va parler à présent de politique et de médias. Emmanuel Macron s'est donc exprimé ce jeudi après-midi dans le journal de 13h de Jean-Pierre Pernaut dans une école primaire en province, une grande première. Il s'exprima également dimanche soir sur BFM TV, interrogé par Jean-Jacques Bourdin et Edvy Plenen, le fondateur de Mediapart. Deux interviews qui sont donc réalisées dans un cadre très spécial pour un public un petit peu plus particulier que le public d'un JT.
Exactement. Déjà, on va parler d'interview de ce jeudi, animée par donc Jean-Pierre Foucault. Ce n'est pas la première fois qu'il interviewait un président de la République. Il a interviewé notamment Nicolas Sarkozy pendant son mandat. Mais la différence, c'est que là, il était tout seul, ce qu'on appelle en one-to-one, tout seul face au président de la République. La dernière fois, en 2010, il avait interviewé Nicolas Sarkozy avec 11 Français. Et puis, en 2011, il avait interviewé avec Yves Calvi, le président de la République. Il y a également un créneau horaire différent. Habituellement, c'est toujours le soir, globalement vers 20h. Et là, le président de la République, Emmanuel Macron, a été interviewé à 13h pour toucher le public du 13h de Jean-Pierre Pernaut. Donc, c'était un cadre très spécial au niveau horaire, mais également au niveau du lieu. Le président de la République n'était pas à l'Élysée, il n'était pas dans un studio, il était dans une salle d'école. Là encore, c'est là la particularité de cette interview, dans ce village normand de l'Orne, pour parler pendant plus d'une heure des différents sujets de société qu'on va développer au cours de ce focus. On verra qu'il a détaillé beaucoup de projets, mais qu'à côté, il en a oublié aussi pas mal.
Oui, et dimanche, toutefois, hein, l'interview n'aura pas lieu dans les locaux de BFM TV. Elle aura lieu dans une salle dans Paris, mais pas à l'Élysée, comme cela peut se faire habituellement.
Oui, alors le lieu est pour le moment, dit-on, par mesure de sécurité, tenu secret. Mais là encore, pour l'interview du dimanche, ça va être une grande première pour Emmanuel Macron, mais également pour les chaînes d'information, car pour la première fois, ça sera BFM TV et Mediapart qui vont réaliser cette interview, mais ça va être la première fois qu'une chaîne d'info va diffuser l'entretien du président en exclusivité, entre guillemets, parce qu'avant, il était toujours attaché à une chaîne, une des grandes chaînes de télé, c'est-à-dire TF1 ou France 2. Et là, c'est donc BFM TV qui a gagné cette exclusivité, et également le site internet Mediapart, qui va être le premier site internet à avoir un entretien de la sorte avec un président de la République, et vous l'avez dit, Edvy Plenel, le fondateur de Mediapart, qui sera donc aux côtés de Jean-Jacques Bourdin pour tenir cette interview prévue dimanche.
Alors, on va revenir sur l'interview de ce jeudi, hein, puisque celle-ci a déjà eu lieu. Et pour sa prise de parole, Emmanuel Macron a tout d'abord choisi, dans un premier temps, de parler de la Syrie. Il a fait savoir que ces armes chimiques, eh bien, avaient bel et bien existé en Syrie, contrairement à ce que peuvent dire les Russes.
Exactement. Il a commencé l'interview avec cette information. Nous avons la preuve que la semaine dernière, des armes chimiques ont été utilisées par le régime de Bachar el-Assad. Ça met tout immédiatement dans l'ambiance de cette interview. Il a quand même annoncé être quand même en contact à plusieurs reprises avec le président Vladimir Poutine, mais il a quand même confirmé que des armes chimiques avaient été utilisées sur la ville de Douma, dans la banlieue de Damas. Donc c'était une des premières grandes annonces d'Emmanuel Macron, et c'est Jean-Pierre Pernaut qui a mis d'office le dossier sur la table, alors qu'habituellement on le connaît, Jean-Pierre Pernaut, il est plus sur les questions de politique intérieure, de la vie quotidienne, et c'est vrai que c'était une surprise de commencer l'interview de la sorte par la Syrie.
Alors ensuite, le président est revenu sur le cas des retraités, également sur celui des cheminots. On le sait, hein, depuis le 3 avril a commencé la grève à la SNCF. Sur les retraités comme sur la SNCF, le président est donc inflexible. Toutefois, le mot d'ordre était peut-être celui de la pédagogie et de la compréhension.
C'est ça, on l'a vu rencontrer un peu avant l'interview, en arrivant devant cette école, rencontrer des citoyens du petit village qui fait quand même un petit peu plus de 2000 habitants pour parler avec eux des différents dossiers par rapport à la SNCF et surtout par rapport aux retraités. Alors on va revenir sur ce qu'il a dit au niveau des retraites dans quelques instants, mais au niveau de la SNCF, il s'est exprimé, c'était là quand même la première fois qu'il s'exprimait sur cette réforme de la SNCF. Il a estimé qu'il allait aller jusqu'au bout et qu'il n'avait pas de mépris envers les cheminots. Qu'il a annoncé également que la SNCF restera bien publique, que les cheminots actuels resteront bien cheminots et que le fait de suspendre le statut de cheminot ne concernerait que les futurs employés de la SNCF. Et donc, ces deux annonces très importantes. En soi, la SNCF restera bien publique et les cheminots actuels resteront bien cheminots. Du côté des retraités, il a parlé de cette hausse de la CSG. Il a dit que c'était un besoin. Il a fait de la pédagogie, c'est ce que vous disiez, en expliquant que certes, les retraités avant avaient cotisé pour les retraites, mais que c'était pour les retraités de leur époque, comme nous aujourd'hui on peut travailler, mais c'est pour financer les retraites de nos retraités actuels. Et ce, pour nos retraites, ce sera nos enfants, nos petits-enfants qui cotiseront. Il a fait de la pédagogie comme ça pendant un long moment quand même, hein, dans cette interview qui était entrecoupée, pardon, de micro-trottoirs réalisés aux quatre coins de la France par les correspondants de TF1, avec les Français qui réagissaient aux différentes mesures, aux différentes réformes du président de la République. Donc voilà, en tout cas, pour ce qu'on pouvait dire autour des retraités, mais également de la grève à la SNCF.
Oui, alors sur les 80 km/h, on le sait, hein, ce débat divise les Français. Vous avez notamment Franck Puy assisté lors d'un duplex spécial à Mont-de-Marsan. Et bien sûr, les 80 km/h, Macron ne renonce pas, mais fera des concessions dans les 2 prochaines années.
Oui, tout simplement, cette phrase à retenir, si ce n'est pas efficace, on ne le gardera pas. C'est les mots d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'à partir du 1er juillet, il y aura une expérimentation à taille réelle de cette réforme pour 2 ans. C'est ce qu'a annoncé Emmanuel Macron. Il le dit lui-même, je prends ici 2 engagements. Durant ces 2 ans, l'argent qui sera perçu, on le mettra pour les hôpitaux qui soignent les blessés de la route. On rendra transparent tous les résultats, si ce n'est pas efficace, on ne le gardera pas. En tout cas, les Français seront peut-être rassurés de savoir que ce n'est que pour une durée de 2 ans, cet essai, mais on va peut-être avoir encore une augmentation de la mobilisation avec cette déclaration du président de la République.
Oui, Emmanuel Macron qui a également parlé de la suppression de la taxe d'habitation pour l'ensemble des foyers français. Il a également abordé le culte musulman, déclarant que le financement étranger doit être organisé sous le contrôle de l'État et transparent. Pour les hôpitaux, des mesures seront prises cet été. Néanmoins, sur plus d'une heure d'interview, Emmanuel Macron a peut-être oublié un sujet primordial, celui des facs, et puis a évoqué en toute fin d'interview celui de Notre-Dame-des-Landes, en rappelant que l'ordre républicain sera rétabli, mais néanmoins, on pourrait regretter, en tout cas, les défenseurs de la ZAD regrettent qu'Emmanuel Macron ait négligé ce sujet.
Oui, 30 secondes, montre en main, c'est le temps qu'il a fallu à Emmanuel Macron pour parler de Notre-Dame-des-Landes en fin d'interview. Il était quasiment 14h, alors certes, peut-être que le conducteur avait un petit peu débordé, mais c'était quand même un sujet primordial. Hein. Toute la semaine, on en a parlé à la télévision de cette expulsion de la ZAD. Après, alors il le souligne assez rapidement, ils occupent illégalement des territoires publics, ils n'ont plus le droit de le faire car il n'y aura pas d'aéroport. Alors certes, mais il n'a pas expliqué l'intervention des CRS, cette distance également qui a été obligatoire entre la zone d'intervention et les journalistes qui ne pouvaient pas officiellement accéder à cette ZAD et la gendarmerie nationale qui mettait à leur disposition des images, photos, vidéos, mais du coup dont le ministère de l'Intérieur faisait le tri entre ceux qui voulaient être diffusés et ceux qui ne voulaient pas qu'on voit à la télévision. Ou dans les journaux. Donc en tout cas, voilà, Notre-Dame-des-Landes a été un sujet qui a été assez lapidaire, on peut le dire, mais il y a également les facs où là, aucune question n'a été posée par Jean-Pierre Pernaut, peut-être aucune question n'a été forcément acceptée par le palais de l'Élysée. On ne sait pas s'il y a eu forcément des communications, mais on ne sait pas si l'Élysée a souhaité qu'on ne pose aucune question sur les facs, mais en tout cas, voilà, avec l'ambiance tendue qu'il y a eu cette semaine, que ça soit à Tolbiac à Paris, à Nanterre ou il y a quelques semaines à Montpellier, les facs font bien parler, alors peut-être qu'on aura droit à des questions de la part de Jean-Jacques Bourdin et de Louis Plenel dimanche, eux qui sont un petit peu peut-être plus virulents envers leurs invités. En tout cas, pour l'instant, ce jeudi, TF1 a fait une interview sans parler de ces deux sujets.
Ouais, c'est étonnant en tout cas. Voilà donc pour cette première interview. La deuxième aura donc lieu dimanche 20h30, hein, Franck, c'est bien cela?
C'est ça, sur BFM TV à la télé, sur RMC à la radio, également sur le site de Mediapart pour le web, une grande première.
Oui, c'était intéressant d'ailleurs de voir, hein, à quel point certains abonnés de Mediapart étaient déçus de voir que Mediapart s'associait à BFM TV qui, dans le milieu des lecteurs de Mediapart, n'est peut-être pas réputé pour être le média le plus objectif. En tout cas, c'est ce que pensent et c'est ce que suggèrent les lecteurs de Mediapart. On a vu des commentaires assez haineux, même sur le site de Mediapart, envers Mediapart.
Oui, mais après, j'ai envie de vous dire que c'est normal que plusieurs médias se mobilisent pour avoir Emmanuel Macron, parce que forcément, ça éviterait à Emmanuel Macron, par exemple, au lieu de faire 3 interviews cette semaine, eh bien, il n'en fait que 2. Après, il faut se dire que BFM TV est la première chaîne info de France, donc peut-être qu'elle a plus appuyé depuis le temps. Et puis, Mediapart, qui avait eu la promesse d'Emmanuel Macron qu'au bout d'1 an de mandat, il allait revenir pour répondre à leurs questions. Donc peut-être que l'Élysée a demandé que les deux médias se rapprochent, peut-être que c'est BFM TV.
Peut-être joindre l'utile à l'agréable finalement.
C'est ça. C'est peut-être aussi prendre moins de temps pour les médias parce que, comme je le disais, il a déjà répondu une fois. C'est vrai que les interviews présidentielles sont quand même assez rares. Et là, le fait d'en avoir 2 en l'espace de même pas une semaine, il y a des risques de répétition, de questions différentes. En plus, là, comme je disais, Jean-Jacques Bourdin et Louis Plenel sont quand même des intervieweurs assez, qui font un petit peu peur peut-être pour leurs invités au niveau des questions assez virulents. Donc peut-être qu'ils ont voulu faire un tir groupé, ce qui se comprend, car quand on fait les interviews entre TF1 et France 2 en même moment, on n'entend pas parler. Quand il y a eu les débats entre BFM et CNews, ou c'était peut-être ITL à ce moment-là, il n'y avait pas eu autant de débats. Mais là, c'est vrai qu'en plus, le fait que ça soit pour une plateforme web, ça va viser moins de monde et c'est peut-être plutôt une chance pour Mediapart de se faire un petit peu plus connaître, parce que là l'interview va être nettement plus reprise que si elle était passée tout simplement sur Mediapart, parce que forcément ce sont les abonnés de Mediapart qui auraient eu l'accès plutôt à cette interview, et donc ça aurait été peut-être un petit peu plus compliqué. En tout cas, l'essentiel, c'est de retenir que Emmanuel Macron aura parlé 2 fois cette semaine, ce jeudi sur TF1 et ce dimanche sur BFM TV et sur Mediapart.
Eh bien voilà, merci beaucoup Franck Payanave d'être revenu donc sur ces fameux 2 interviews. On va revenir en tout cas dans quelques instants avec Benoît de Valicourt, expert en communication, sur les faits et gestes d'Emmanuel Macron. On analysera tout cela un tout petit peu plus en profondeur. Merci beaucoup Franck et on vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau duplex ou un nouveau focus.
Merci beaucoup Martin, à bientôt.
C'est l'info L'invité de la semaine.
Attaque chimique en Syrie, grève des cheminots, hausse de la CSG pour les retraités, limitation de vitesse à 80 sur les routes secondaires dans un format inédit du 13h de TF1. Emmanuel Macron a disposé d'une heure jeudi 12 avril pour répondre aux questions de Jean-Pierre Pernaut depuis une école rurale de l'Orne. Nous sommes avec Benoît de Valicourt, bonjour.
Bonjour.
Conseiller en communication, on vous lit sur observateurdudimanche.com. Alors, avis général pour commencer sur cet entretien, un cadre très spécifique dans lequel Emmanuel Macron s'est retrouvé face à un Jean-Pierre Pernaut peu habitué finalement aux interviews politiques. Avez-vous été séduit sur l'habillage de cet entretien ?
Alors séduit, c'est peut-être pas le terme. En revanche, j'ai trouvé que Jean-Pierre Pernaut n'avait pas vraiment fait du Jean-Pierre Pernaut, c'est-à-dire qu'il était quand même un petit peu sorti de la ménagère depuis de 50 ans, même si à chaque fois, les petits reportages qui illustraient son interview étaient des petits reportages de la France très rurale, mais c'était bien entendu l'objectif de cette séquence. S'agissant du président Macron, j'ai trouvé qu'il était là un petit peu dans un ton professoral, en tout cas dans le ton du maître d'école. Je ne suis pas sûr que l'idée d'avoir choisi une classe aussi bien rangée, aussi bien, comment dire, équipée, soit l'image de ce qu'est le monde rural de la France aujourd'hui. Alors, il a donné des explications et peut-être qu'il lui fallait pour ça le cadre d'une classe pour expliquer et pour répéter, c'est-à-dire qu'il a voulu faire de la pédagogie, ce qui manque cruellement à son gouvernement.
Oui, alors les questions et les réponses allaient effectivement beaucoup vers les Français. L'actualité internationale, elle, a été très peu traitée, hormis effectivement ce sujet donc de la Syrie, mais qui était finalement peut-être presque un sujet obligatoire compte tenu de la gravité de la situation. Et donc, vous le disiez, Emmanuel Macron s'est livré un exercice de pédagogie sur beaucoup de sujets, tels que la SNCF, les hôpitaux ou eh bien la CSG. Emmanuel Macron a bien voulu expliquer aux retraités cette CSG en expliquant également que le système de retraite s'installait dans une verticalité en France.
Alors pour le coup, c'est sans doute le moment où il a été le plus convaincant. C'est sur cette question de la CSG et de l'augmentation de la CSG pour une partie des retraités, et il a très clairement rappelé ce qu'était cette partie des retraités au-dessus de 1200 euros mensuels. Alors, il a expliqué aussi que il avait demandé un sacrifice à ses retraités, hein, c'est-à-dire de faire un effort de contribution nationale. Il a aussi, je crois, expliqué clairement que finalement, la cotisation de la retraite, elle est pour payer celle de ses des aînés et elle n'est pas pour payer sa propre retraite. Je trouvais que là, pour le coup, l'exercice pédagogique était plutôt efficient. En revanche, j'ai trouvé dommage qu'il n'explique pas à quelle autre partie de la population il avait demandé de faire un effort. Et peut-être eût-il été souhaitable qu'il dise « ben oui, mais je n'ai pas demandé qu'aux retraités ».
Alors, interrogé
et
sur
du
la...
Du coup, on a un peu le sentiment que les retraités ont été les seuls à devoir mettre la main au portefeuille.
Oui, mais alors finalement, alors que ce soit dans cet extrait-là ou dans d'autres extraits, il y avait un petit côté un peu Nicolas Sarkozy derrière Emmanuel Macron. On l'a vu à un moment presque sur les nerfs, peut-être même surjouer, jouer la comédie, lorsque justement il défendait des sujets tels que les hôpitaux ou effectivement la CSG.
Oui, alors, est-ce que c'était Sarkozy? Je ne sais pas. En tout cas, c'était, je crois, plutôt l'agacement d'un professeur ou d'un maître d'école face à des élèves qui ne comprennent pas.
Oui. Emmanuel Macron était donc interrogé également sur la grève à la SNCF qui semble donc se profiler, s'éternise. Il a estimé que nous devions aller jusqu'au bout de cette réforme. Ne pas le faire serait une hypocrisie politique. Comment l'avez-vous trouvé sur ce sujet ?
J'allais utiliser une expression qui n'est pas la bonne. J'allais dire qu'il était droit dans ses bottes, c'est-à-dire qu'en tout cas, il a l'air de ne pas vouloir lâcher. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'il joue un peu sur du velours. Je suis un grand usager de la SNCF pour prendre le TGV 3 fois par semaine. Donc avec les retours, ça en fait 6. Il est évident qu'il y a une nécessité de réformer cette entreprise. J'arrive à l'instant de Montpellier. Le train avait 40 minutes de retard. Ces 40 minutes de retard ont été justifiées par l'impact d'un animal sur le TGV précédent. Or, si je réfléchis 2 minutes, quand je regarde ce qui se passe à travers la fenêtre du TGV, toutes les lignes TGV sont protégées par des grillages, par des comment on appelle ça? Oui, c'est ça, des grillages et des grilles qui empêchent justement l'intrusion sur les voies. Si un animal arrive à passer, c'est que effectivement les infrastructures sont défectueuses. Le jeudi ou mercredi, enfin, le jeudi, donc mardi, mon TGV avait 1 heure de retard pour une défaillance technique d'une qu'on appelle ça des aiguillages et des choses comme ça. Encore une fois, c'est une défaillance technique. Et ainsi de suite, je peux vous assurer que les exemples, je peux les multiplier. Donc, quand il dit qu'effectivement, ce serait une hypocrisie politique de ne pas aller jusqu'au bout, il a raison. Et en même temps, j'ai l'impression qu'il est de plus en plus soutenu par la population, c'est-à-dire par tous ces usagers qui ne comprennent pas finalement cette grève absurde des cheminots et qui ne supportent pas l'idée d'être tous les 3 jours pris en otage et de ne pas pouvoir travailler normalement. Parce que finalement, tous ceux qui sont victimes de la grève des cheminots sont des gens qui, eux, ne peuvent pas faire grève. C'est-à-dire, sont des gens du privé, qui, pour la majorité, qui vont prendre le train le matin pour aller bosser. Et eux, ils ne font pas grève.
Emmanuel Macron est également revenu sur les 80 km/h en déclarant que la mesure allait être partiellement mise en place en juillet et que si dans les 2 prochaines années la mortalité ne baissait pas, eh bien ce sujet serait clos et les 80 km/h seraient abandonnés. Finalement là, on n'a pas un peu l'impression que Emmanuel Macron recule sur ce sujet, mais pas totalement parce qu'il souhaite rester, comme vous le disiez, droit dans ses bottes?
Oui, bon là pour le coup, si l'autre sujet, c'est-à-dire la SNCF ne pas aller jusqu'au bout, était une hypocrisie politique, là l'histoire des 2 ans est une véritable hypocrisie politique. C'est-à-dire que c'est du grand Macron, c'est-à-dire en même temps. En même temps, je ne veux pas être un hypocrite politique et en même temps, je suis un hypocrite politique. L'histoire des 80 km/h. Effectivement, si c'est une bonne mesure, je ne suis pas qualifié pour dire si oui ou non à 80 km/h il y a moins d'accidents et il y a donc moins de morts sur les routes. Si en tout cas c'est comme ça que l'on doit réduire le nombre de morts, il n'y a pas de question à se poser de savoir si on fait un test ou pas un test. Je
Alors,
pense que les études ont dû être faites préalablement. Il y a eu des départements qui ont été des départements de test. Soit effectivement on s'est rendu compte que ça avait un impact, soit ça n'en a pas. Il faut arrêter de prendre les gens pour des idiots en disant qu'on fait comment on appelle ça, un test grandeur nature sur 2 ans. Vous savez, c'est comme l'histoire de la vignette qui avait été instaurée pour venir en aide des personnes âgées. Le provisoire en France a toujours duré. Donc, on peut se dire que c'est une façon de déguiser, de faire passer la pilule. Au bout de 2 ans, tout le monde aura oublié l'histoire des 80 km/h. Et au bout de 2 ans, les 80 km/h se seront imposés dans le paysage routier français, et puis on n'en parlera plus.
Et puis enfin, il y a quelques sujets un petit peu tabous que le président a mis de côté. Alors Notre-Dame-des-Landes tout d'abord, hein, déclarant en 30 secondes chrono que l'ordre républicain sera rétabli. Et puis, eh bien, sur la question des facs, avec de nombreuses universités qui sont bloquées dans tout le pays depuis maintenant 2 mois, Emmanuel Macron est resté très discret. Peut-être décidera-t-il d'en parler dimanche soir en face de Jean-Jacques Bourdin et d'Edwy Plenel.
Peut-être. Alors effectivement, sur les facultés, en revanche, moi j'ai trouvé qu'il avait été très peu loquace en disant d'ailleurs, en sous-estimant même, en minimisant le problème. Il disait non, non, mais il n'y a pratiquement aucune faculté qui sont occupées. Je ne sais pas si vous avez entendu. Alors que Jean-Pierre Pernaut lui disait qu'il y avait quand même un grand nombre de facultés qui étaient occupées. Il n'a pas voulu traiter le sujet et peut-être parce que ce sujet est loin de la priorité de ceux à qui il s'adressait ce midi, enfin du moins à 13h, pardon. Il s'est adressé à qui à 13h? Il s'est adressé à cette France rurale. Il s'est adressé à cette France rurale, parfois même âgée. Et il s'est adressé à des gens qui ne sont pas concernés par la question de l'université. Donc c'était pas le sujet pour lui. Et n'en déplaise d'ailleurs au président Macron quand il dit qu'il n'y a pas d'opposition entre la France des villes et la France des champs. Si, il y a une opposition entre la France des villes et la France des champs. Preuve en est, il est allé dans les champs pour parler à cette France-là. Donc oui, il y a une opposition. Bien entendu qu'il y a une opposition. D'ailleurs, il a lui-même montré cette opposition. Quant à la question des zadistes, encore une fois, ça n'a pas été une priorité parce que c'est un sujet finalement, j'allais dire, de bobo. C'est un sujet, c'est un épiphénomène finalement dans notre société, ces zadistes. Ils représentent très peu de choses. Donc quand il dit l'ordre républicain doit être restauré, il le dit avec la plus grande fermeté qui est son rôle. A priori, de toute façon, les militaires font le job. Là où il m'a semblé être, comment dire, un peu bienveillant vis-à-vis de cette population de zadistes, c'est quand il dit, maintenant, la préfète de ce département va étudier la possibilité d'aménagement de fermes dans le cadre de la légalité. Donc, il ne ferme pas tout à fait la porte aux zadistes. Il ne leur ferme pas tout à fait la porte. C'est assez curieux. C'est assez curieux. Je pense que il a trop en mémoire les actes manqués finalement quand il y a eu des occupations par des zadistes et les violences qui s'en suivent et la mort de celui sur le barrage
De Sèvres.
de Servin
De Sèvres, pardon.
il y a quelque temps. Donc je pense que c'est un sujet sensible par la violence que cela peut entraîner. Et l'éventualité de blessés, de graves blessés, voire de morts. Et c'est sans doute ça qui gêne l'exécutif.
Alors, Emmanuel Macron s'adressait donc ce jeudi à la France rurale. À qui s'adressera-t-il dimanche soir à 20h30 sur BFM TV, face donc à Jean-Jacques Bourdin et à Edwy Plenel, fondateur de Mediapart, à la France des villes? Ce serait peut-être un peu la caricature la plus extrême que l'on pourrait faire.
Ce serait peut-être la caricature, pardon, la plus extrême, mais il s'adressera en même temps à la France des villes, mais aussi à la France de la enfin, la France des petites villes aussi, enfin des villes moyennes, à cette France, on va dire, plutôt urbaine et périurbaine. Hein, c'est à cette France-là qu'il va s'adresser. Et puis il va s'adresser, ça c'est pour le côté Bourdin, et puis il va s'adresser à la France, comment dire, à la France suspicieuse, à la France qui n'est pas de son côté, à la France qui critique, à la France qui aime la bagarre, c'est celle de Mediapart, celle qui suit Mediapart. Alors, moi je pense qu'il faut qu'on relativise bien entendu l'impact d'un Mediapart dans l'opinion publique. Je pense que Bourdin a plus d'écoute, Mediapart a d'écoute à chaque fois qu'ils font le buzz. J'imagine que pour que Edwy Plenel puisse intéresser son auditoire, il va falloir qu'il crée le buzz face au président. S'il ne crée pas le buzz, il ne se passera rien d'intéressant pour son auditoire. Inévitablement, il s'adressera à cette France-là. Peut-être qu'Edwy Plenel a l'impression qu'il sera l'ambassadeur ou le porte-parole d'une France dite intellectuelle. Face au président de la République.
Oui, alors si tel est le cas, on peut dire que ça promet donc pour une interview de plus de 2 heures qui aura lieu dimanche soir. Merci beaucoup, Benoît de Valicourt, d'avoir été
Merci à vous.
notre invité, conseiller en communication, observateur du dimanche.com.
Merci, à bientôt.
C'est l'info, l'invité de la semaine.
À la suite de l'attaque chimique présumée de Douma en Syrie, le ton monte entre Washington et Moscou. Prépare-toi Russie parce que les missiles arrivent super et nouveaux et intelligents. Ainsi tweeté ce mercredi le président américain sur son canal de communication favori. La Russie, elle, promet d'abattre tout missile tiré sur la Syrie. On va en parler avec vous Bruno Tertrais, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en sciences politiques et directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique. Alors, sommes-nous à l'aube d'une confrontation directe entre la Russie et les États-Unis ? Autrement dit, la ligne rouge a-t-elle été franchie cette semaine ?
Il y a une ligne rouge qui a été franchie déjà à plusieurs reprises, c'est la ligne rouge des armes chimiques. Mais en ce qui concerne le risque de confrontation directe entre la Russie et les États-Unis, je pense très franchement que ce risque est minime. On ne peut jamais dire qu'il est inexistant. Mais il ne faut ni prendre les tweets de Donald Trump au premier degré, ni les rodomontades de la Russie au premier degré.
Oui, alors le régime a donc repris la Ghouta orientale dans sa totalité, hein, selon l'armée russe. Un drapeau du gouvernement syrien flotte sur la ville de Douma, la seule ville de la région qui échappait au régime. Après cette reprise, une intervention est-elle toujours possible et légitime ?
L'idée d'une intervention menée notamment par les pays occidentaux n'a pas grand-chose à voir directement avec la situation militaire en Syrie. Elle est directement liée à la question de l'emploi des armes chimiques à propos duquel la France, les États-Unis, mais aussi d'autres pays estiment qu'on est au-delà des bornes de l'acceptable, si tant est que le reste soit acceptable. Si vous voulez, c'est pas le fait que la Ghouta ait été apparemment presque totalement, sinon totalement reprise, ne change rien aux paramètres fondamentaux de l'intervention, puisque cette intervention ne serait pas destinée à avoir un impact direct sur la situation militaire, hormis sur la question des armes chimiques.
Oui, et alors une intervention est-elle envisageable ? Va-t-elle arriver ? Peut-on s'attendre à ce fameux accord France-Grande-Bretagne-États-Unis qui avait échoué il y a maintenant 5 ans ?
Oui, effectivement, si la détermination française et américaine apparaissent suffisamment forte pour qu'on puisse dire qu'il y aura désormais une intervention, quelle que soit son ampleur exacte, la question reste celle d'une participation britannique, puisque le Royaume-Uni ne sait pas encore s'il aura la légitimité politique intérieure. Le gouvernement de Madame May ne sait pas encore s'il a suffisamment de légitimité politique intérieure pour intervenir sans accord du Parlement. Et s'il demandait cet accord du Parlement, il n'est pas certain de l'avoir. Dans tous les cas de figure, je pense que quelques autres pays seront associés, même de manière indirecte, à cette opération. Il est important, en effet, que ça ne soit pas perçu comme une opération exclusivement occidentale.
Et en face, pourquoi la Russie s'obstine-t-elle à renier ses attaques chimiques ? On le sait qu'elle a des intérêts stratégiques, géostratégiques même en Syrie avec cette base navale. Mais quand même, les images dévoilées le week-end dernier montrent une situation bien particulière, Bruno Tertrais.
La Russie de Vladimir Poutine fonctionne d'une manière qui est très différente de nos raisonnements occidentaux. La notion de vérité, la notion de preuve n'a plus la même valeur, malheureusement. C'est un régime qui aujourd'hui ment absolument éhontément sur cette question des armes chimiques. On l'a vu tout simplement parce qu'il dit à peu près tout et son contraire. Je crois qu'on est tout simplement dans l'attitude d'un gouvernement russe qui cherche à préserver coûte que coûte le régime de Bachar el-Assad. Je ne vois pas d'autre explication possible.
Oui, et l'objectif désormais pour Bachar el-Assad et pour ses forces, quel est-il ?
Je crois que le régime de Bachar el-Assad se sent aujourd'hui victorieux, et qu'utiliser des armes chimiques, c'était aussi une manière de dire « je fais ce que je veux sur mon territoire et vous ne pouvez pas m'en empêcher ». Cela dit, si Damas cherche à reconquérir l'ensemble du territoire syrien, c'est-à-dire à peu près la moitié du territoire syrien qui échappe encore à son contrôle, ça ne sera pas facile, et je ne sais pas si c'est un objectif qui peut être réaliste à court ou moyen terme. Peut-être que le régime de Damas se satisferait d'une Syrie à moitié seulement reconquise, puisque c'est la partie la plus urbaine et la plus intéressante pour lui du point de vue des ressources qui est aujourd'hui sous contrôle.
Merci beaucoup Bruno Tertrais d'avoir répondu à nos questions. Directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique, vous êtes le co-auteur de l'Atlas des frontières, murs, conflits et migrations. Nouvelle rubrique sur C'est l'info avec Michael Assoumou, la revue de presse. Bonjour Michael.
Bonjour Martin, bonjour à tous et bienvenue dans cette revue de presse hebdomadaire. Ici nous traitons à la fois les sujets nationaux et internationaux et tentons de décrypter à travers la presse écrite, web et mass media les titres qui font l'actualité en France et dans le monde.
Au sommaire cette semaine.
Alors oui, au sommaire cette semaine, Mark Zuckerberg convoqué devant le Congrès américain.
Alors expliquez-nous mon cher Michael.
En plein scandale Cambridge Analytica, le fondateur de Facebook a été auditionné par le Sénat américain ce mardi pendant plusieurs heures. Conscient de l'enjeu, le jeune milliardaire s'est montré moins offensif que d'ordinaire.
Oui, alors qu'est-ce que l'on reproche à Cambridge Analytica ?
L'entreprise Cambridge Analytica a ainsi siphonné les données de millions de comptes Facebook, notamment les listes d'amis de contact, à l'insu des personnes concernées en 2016 pour aider à cibler la campagne électorale de Donald Trump, en exploitant un logiciel développé par un chercheur de l'université de Cambridge. Le réseau social Facebook se retrouve lourdement sanctionné en bourse avec une chute de près de 7% de son cours ce lundi, faisant s'évanouir 36 milliards de dollars de valorisation.
Premier journal à traiter de cette actualité, c'est Le Figaro.
Alors oui, Le Figaro note que le PDG de Facebook a défendu son entreprise face au scepticisme et parfois aux attaques des sénateurs et députés américains. L'enjeu pour lui est d'éviter une réglementation trop stricte. Convoqué à Washington pour s'expliquer dans les auditions publiques au Congrès, Mark Zuckerberg a rempli sa mission. Face à des sénateurs et députés, les derniers plus agressifs que les premiers, le patron de Facebook, à défaut d'être souriant et détendu, a su se montrer humble et constructif. En complet sombre et cravate, l'air grave face à une armée de photographes et caméras, il a tenté de faire oublier son t-shirt pâle et sa capuche légendaire.
Oui, et alors Michael, qu'a donné cette audition ? Le Monde a en tout cas son petit avis.
Oui, Le Monde note que si sa première prestation a été considérée comme une réussite face aux questions, souvent mal informées des sénateurs, M. Zuckerberg s'est retrouvé confronté le lendemain à des interlocuteurs plus coriaces, qui connaissaient mieux leur dossier. Questions insistantes, relance acerbe, comme le démocrate Ben Luan, qui s'est fait remarquer lors d'une déclaration musclée sur la façon dont Facebook collecte les données des internautes, même si ceux-ci ne sont pas inscrits sur le réseau social. Réponse de l'intéressé, nous collectons ces données pour des raisons de sécurité.
Le Huffington Post à présent qui s'intéresse au cas d'une élue démocrate de Californie.
En effet, le quotidien note que les bribes de réponses apportées par Mark Zuckerberg n'ont pas suffi à convaincre. Convoqué pour s'expliquer sur les divers scandales qui touchent le réseau social qu'il a créé, il a été interrogé ce mercredi par Anna Isho, une élue démocrate de Californie, qui lui a demandé si ses propres données personnelles avaient été utilisées. Oui, a reconnu le jeune milliardaire, qui a aussi estimé qu'il avait l'obligation morale de protéger la démocratie.
Ce qui est sûr, c'est que tout cela s'était déjà vu par le passé.
En effet, une habitude chez Facebook, à chaque crise, l'entreprise présente ses excuses, puis annonce une série de mesures et promet que cela ne se reproduira plus. Après bientôt une quinzaine d'années d'existence, il semblerait que cette stratégie ne suffise plus à apaiser, voire duper, les élus américains. À l'époque, il avait déjà déclaré « Je m'excuse pour tout le mal qu'a pu causer ma négligence ». On se rappelle ainsi qu'en 2006, Mark Zuckerberg disait « Nous avons vraiment fait une erreur ». En 2010, « Parfois, nous allons trop vite », signe peut-être que l'entreprise est en train de décoller. En 2017, « Je vous demande de me pardonner, je vais faire en sorte de m'améliorer ». Pour elle, cela prouve que l'autorégulation ne fonctionne pas. La veille, plusieurs sénateurs avaient également dénoncé cette stratégie, comme le sénateur républicain John Thune du Dakota du Sud.
Mark Zuckerberg s'est donc montré assez conciliant. Comment a réagi la presse étrangère ?
Alors la presse étrangère se montre plus dure avec le PDG de Facebook, notamment le Times, qui tweet ce mercredi que Mark Zuckerberg quitte ainsi Washington avec des bleus et des escamoses et que son intervention n'aura rien apporté d'intéressant. Et se rappelle que le milliardaire de 33 ans souhaitait se présenter à la présidentielle en 2020. Étonnant. Et que l'affaire semble bien mal partie à la suite des 9 heures d'inquisition menées contre le jeune PDG. Pour le quotidien américain, Mark n'a pas su convaincre un Sénat pas du tout impressionné par le milliardaire. Quant à The Economist, le quotidien britannique, il observe avec ironie que s'excuser peut devenir une expérience enrichissante dans la vie d'un homme. Et ce dernier de marteler que d'ici la fin de l'année 2018, Facebook emploiera plus de 20 000 personnes à des tâches de sécurité des données et de surveillance des contenus. Ainsi, Mark Zuckerberg a aussi tenté de limiter la portée des réglementations ou sanctions qui pourraient tomber en réaction aux affaires qui ont révélé à quel point Facebook découvrait sur le tard comment son réseau était manipulé, loin de rejeter les velléités de législation. Affaire à suivre donc, mon cher Martin. Je vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.
Merci beaucoup, Michael Assoumou. On vous retrouve évidemment la semaine prochaine. Et bravo, puisque c'était votre premier enregistrement pour C'est l'info. À la semaine prochaine.
Le monde qui bouge, Fabien Herbert.
Fabien, bonjour.
Bonjour Martin.
Vous êtes donc en duplex pour Le Monde qui bouge et pour C'est l'info en Corée du Sud à Séoul où vous allez, en fait, vous faites une tournée hein, asiatique pour les 3 prochains mois à venir, c'est bien cela ?
C'est ça, exactement, en tant que correspondant.
Voilà. Et donc du coup, eh bien, plus que vous êtes à Séoul en Corée du Sud, on va parler de la Corée et du soft power sud-coréen, alors que la péninsule de Corée cristallise la tension internationale en Asie depuis 2 ans. Il semblerait que nous assistions depuis les Jeux Olympiques à un rapprochement entre Séoul et Pyeongchang. Si le traitement médiatique lié à la Corée du Sud rime souvent avec menace nucléaire, le pays du matin, calme, a également su développer ses atouts culturels ces dernières années, de son cinéma à sa musique, devenu un véritable outil du soft power sud-coréen. Alors Fabien, pouvez-vous nous rappeler brièvement ce que vous appelez le soft power ?
Oui, tout à fait Martin. Alors le soft power, c'est un concept utilisé depuis une trentaine d'années dans le domaine des relations internationales. On peut résumer ce concept par la capacité d'une entité politique à convaincre, persuader ou influencer un autre acteur. Il s'oppose au hard power qui, lui, rentre dans le champ de la contrainte et de la coercition. Pour l'anecdote, le géopoliticien français Gérard Chalian en a proposé une traduction par le terme de pouvoir feutré.
Et quelle est la particularité du soft power de la Corée du Sud ?
Eh bien, la question du soft power est traditionnellement associée aux grandes puissances. Mais il devient un enjeu crucial pour ce qu'on appelle les moyennes puissances. La Corée du Sud est située entre les mastodontes économiques japonais et chinois, d'une part, et est menacée par la puissance nucléaire nord-coréenne, d'autre part. Pour exister depuis les années 90, Séoul ne cesse d'exporter ses produits culturels dans toute l'Asie et plus récemment dans le reste du monde. Les succès coréens sont nombreux, de la K-pop en passant par les fameux dramas. Ce qu'on appelle la vague coréenne ou Korean Wave est connue aussi sous la dénomination chinoise d'Hallyu et a pour origine la crise économique de 1997. À la suite de cette période, le gouvernement sud-coréen va miser sur les technologies de l'information et l'industrie culturelle nationale. Un pari gagnant grâce notamment à l'ouverture des marchés chinois à la même période et à la libéralisation de l'audiovisuel sud-coréen. D'abord importé par la Chine, puis par le Japon, la culture sud-coréenne va s'étendre sur le reste du continent au début des années 2000, en Asie du Sud-Est, en Asie centrale et même jusqu'en Turquie. Dès 2003, la balance commerciale de l'industrie TV sud-coréenne devient positive et en 2005, les exportations sont 3 fois plus importantes que les importations de produits.
On a bien compris donc l'importance de ce soft power sud-coréen et cette particularité. Comment se traduit-il justement, Fabien ?
Eh bien, aujourd'hui, la vague coréenne s'est largement mondialisée à travers plusieurs pôles culturels. Je pourrais vous en citer plein, mais le premier, le plus important peut-être, c'est celui des dramas, ces séries aux intrigues romantiques qui se déroulent autour des hautes sphères de la société coréenne. Vous connaissez également la K-pop, qui se caractérise par ses fameux mouvements de danse, comme le très célèbre lasso du Gangnam Style. Enfin, autre vecteur de l'influence sud-coréenne, la K-beauty, qui est de plus en plus présente dans les boutiques de cosmétiques occidentales.
Oui, et quelle finalité, j'ai envie de dire au final, du soft power coréen ?
Eh bien, Martin, c'est la même que pour le soft power hollywoodien, qui a pour objectif de rendre le modèle américain désirable aux yeux du monde. Le Hallyu suit cet exemple et permet à la Corée du Sud de séduire le monde et de s'imposer comme un modèle de référence en Asie.
Merci beaucoup Fabien, on rappelle que vous étiez pour cette chronique en duplex de Séoul en Corée du Sud où vous opérez un voyage en tant que correspondant pendant 3 mois en Asie. Merci Fabien.
Merci beaucoup Martin.
Quand la vérité n'est pas libre, la liberté n'est pas vraie. La chronique des Voix de l'Hexagone, à retrouver sur voixdelhexagone.fr.
Bonjour Ella.
Bonjour Martin.
Voilà, Ella Micheletti, donc voix de l'Hexagone.fr, on rappelle évidemment le site internet. Et là, vous avez choisi cette semaine de nous parler santé et tabac. On le sait, hein, les prix hein, du tabac augmentent de manière continue depuis quelques mois. Et vous allez aujourd'hui nous parler de ces traitements justement anti-tabac.
Oui, tout à fait Martin. Aujourd'hui, nous allons nous montrer positifs. Pour une fois, nous allons féliciter Voilà, nous allons féliciter une mesure prise par le gouvernement. C'est une nouvelle qui a été annoncée fin mars, donc ça date d'il y a un petit moment déjà, mais elle était passée un peu inaperçue car noyée au milieu de thèmes médiatisés, comme les grèves à la SNCF, évidemment, les manifestations et les blocus dans les lycées et les facultés. Il s'agit de la décision de rembourser intégralement les traitements anti-tabac. Avant d'en venir au fait, il peut être utile de rappeler quelques chiffres. Chaque année, le tabac cause la mort de 73 000 personnes en France à peu près et de 7 millions dans le monde, selon l'OMS. Il est aussi responsable de 90% des cancers du poumon dans notre pays. 34,5% de la population française fume, soit un tiers environ. En termes de sexe et d'âge, eh bien 41,4% des hommes de 25 à 34 ans fument. Pour les femmes, un peu moins, 25,2% au même âge. Alors, pas besoin de sombrer dans le pathos et dans la culpabilisation des fumeurs, mais ce sont là les chiffres. Chaque jour, des centaines de personnes en meurent, environ 400 par jour. Face à cette cause de mortalité importante, la France offrait auparavant un forfait de remboursement de 150 euros annuels pour les fumeurs souhaitant arrêter. Désormais, tous les traitements, même les patchs anti-tabac ou les gommes à mastiquer, vont être totalement couverts par la sécurité sociale. Alors, dans quel but ? Évidemment, il s'agit d'une mesure d'incitation à l'arrêt de la cigarette. Depuis une vingtaine d'années, le nombre d'hommes et de femmes qui ont utilisé ces traitements a beaucoup augmenté. Pour exemple, ils étaient 2 millions en 2003 et 2004 contre seulement 500 000 en 1998. Depuis, ce chiffre oscille entre 1,5 million et un peu plus de 2 millions d'après l'Observatoire français des drogues et toxicomanies. En 2017, ce chiffre est même monté à plus de 2 700 000 contre 2 100 000 en 2016, soit 27,5% d'augmentation.
Et si ces traitements sont plus utilisés, il y avait donc un intérêt sérieux à les rembourser.
Eh bien Martin, c'est justement là qu'on voit l'utilité qu'il y avait à rembourser intégralement ces patchs anti-tabac, car ces timbres transdermiques, tels qu'on les appelle, ont connu une hausse d'utilisation ces 4 dernières années. En 2014, 468 329 personnes ont opté pour ce moyen et 1 071 332 en 2017. Du côté du célèbre Champix, qui était remboursé à hauteur de 65%, on est passé de 41 340 utilisateurs à 84 765 en 2017, soit plus du double. De nombreux Français veulent donc arrêter de fumer et c'est une excellente raison pour ne pas les laisser tomber. Il n'est pas question ici de juger ceux qui ne veulent pas arrêter. L'État n'a pas à être un État nounou, ce qu'il tend malheureusement à devenir quand il fait des campagnes de publicité sur les fruits et légumes ou quand il infantilise les Français en leur disant par exemple de bien se couvrir. Mais il doit cependant faire de son mieux pour préserver le bien-être et la santé de ses concitoyens. C'est aussi le but du remboursement total des traitements anti-tabac. Un coup de pouce quand les gens sont prêts en quelque sorte. Par ailleurs, ce remboursement est une mesure sociale. On ne parle pas assez de la sociologie du tabac, car on tend tous à connaître des gens de toutes les classes sociales qui fument. Mais il existe tout de même des marqueurs sociaux indéniables. Toujours selon l'Observatoire français des drogues et toxicomanies, les personnes aux bas revenus fument plus qu'en 2010, 37,5% contre 35,2%, tandis que les revenus les plus élevés ont au contraire diminué leur consommation. 23,5% contre 20,9%. Plus de la moitié des chômeurs fument et ces différences s'observent également en fonction du niveau d'études.
C'est une mesure qui devrait donc satisfaire tout le monde, les fumeurs mais aussi les non-fumeurs qui connaissent des fumeurs qui veulent arrêter.
Bien sûr, mais les détracteurs ont toutefois des arguments à avancer. Sur les réseaux sociaux, j'ai noté un certain nombre de commentaires critiquant ce remboursement et même si Twitter reste une fois encore un microcosme, les remarques étaient intéressantes et méritent d'être contrées. L'argument qui revient le plus, Martin, eh bien, on pourrait le formuler en ces termes. Les fumeurs ont décidé de fumer, ils doivent donc assumer et payer eux-mêmes. Pourquoi devrais-je cotiser à la sécurité sociale et financer des traitements pour leurs erreurs, leurs négligences, leurs bêtises ? Face à cet argument, plusieurs réponses. En premier lieu, il faut préciser que les cotisations maladie en France ne sont pas proportionnées à nos propres besoins. Ensuite, il faut rappeler que ces cotisations en matière de santé sont les piliers du système de remboursement de la sécurité sociale. Les pathologies et les maux qui sont couverts correspondent souvent à des enjeux de santé publique, comme c'est le cas du tabac. Et c'est là le mot-clé, public. En acceptant de cotiser, nous mettons notre petite pierre à l'édifice de la solidarité nationale. Nous apportons notre aide dans ces grands enjeux de santé publique. C'est de l'altruisme, malgré nous, car nous avons en France un modèle social basé sur cette solidarité. Alors on pourrait objecter qu'individuellement, si nous ne fumons pas, nous n'avons pas forcément envie de cotiser pour quelque chose que l'on réprouve, mais nous le faisons tous quand même, par solidarité nationale. Car dans la société française telle qu'elle est conçue depuis la création de la sécurité sociale par l'ordonnance du 4 octobre 1945, nous envisageons la santé comme l'affaire de tous. Chacun a droit à l'erreur, chacun a droit à une seconde chance. Chacun peut être un jour concerné par une maladie, par exemple. Nos opinions personnelles, intellectuelles, politiques, religieuses n'ont rien à voir avec la participation au système de remboursement. Cet argument de l'individualité est d'autant moins recevable et d'autant plus pernicieux qu'il pourrait être appliqué à bien d'autres sujets de santé dans ce cas.
Et si on admettait cette théorie individualiste, et là, quels autres sujets pourraient être concernés, par exemple ?
Quels autres sujets ? Eh bien, quid de la pilule ? Quid de l'IVG ? C'est un domaine très intime. Dans l'absolu, si l'on conçoit un système de santé ultra-libéral, totalement individualiste, alors pourquoi demander aux citoyens de cotiser pour le remboursement de la pilule et de l'IVG des femmes ? Aux États-Unis, par exemple, Donald Trump a récemment fait annuler une disposition de la loi Obamacare qui garantissait un remboursement obligatoire de la pilule. Car dans ce schéma de pensée individualiste, la vie sexuelle et maternelle des autres femmes me concerne-t-elle ? Non. Suis-je préoccupée par le remboursement de la pilule de ma voisine ? Non. Et désolée pour le manque de connivence ovarienne. Mais l'accès à la contraception est essentiel, de même que l'accès à l'IVG. Ce sont des enjeux de santé publique, encore une fois. On parle de ces deux problématiques sous l'angle exclusivement individualiste et féministe de nos jours, en oubliant que les lois qui les ont autorisées étaient avant tout des lois de santé publique. C'est une question de pragmatisme. On ne veut pas doubler le nombre d'IVG, alors remboursons la pilule. On ne veut pas que des femmes aillent se faire avorter dans des conditions horribles, alors remboursons l'IVG. Il s'agit d'apporter son aide à des individualités dont les vies, les choix, ou les non-choix, parfois les erreurs, les insouciances ne nous concernent pas, mais qui pourraient nous concerner un jour. Nous sommes tous faillibles, parfois faibles, parfois oublieux. Voilà.
D'autres thèmes est là où le remboursement peut être encore insuffisant ?
Oui, il y a encore à faire dans ce domaine du remboursement, Martin. Les perruques médicales pour les hommes et les femmes atteints de cancer et qui ont perdu leurs cheveux sont encore très mal remboursées. Actuellement, la Sécurité sociale offre un forfait de 125 euros par perruque médicale. Mais pour obtenir une bonne perruque, il faut plutôt 6 ou 700 euros. Il n'est pas rare de dépasser les 1000 euros. Rembourser intégralement la perruque médicale serait un choix social et prouverait que l'on se soucie qu'une femme ou un homme se sente mieux dans un corps malade, souvent épuisé, qui ne leur appartient plus, et même si le cancer est causé par un passif tabagiste. Il n'est pas seulement question de rapport social vis-à-vis des autres, mais de s'appartenir soi-même. L'esthétique n'est pas toujours superficielle. Et puis, avec ce remboursement de la perruque médicale, cela donnerait la possibilité d'avoir le choix. Le crâne chauve, le turban, la perruque, mais sans être contraint par des motifs financiers. Car aider autrui sans le juger, quand il est à terre, quand il est en souffrance, quand il a besoin d'une aide collective, même si elle est impersonnelle, c'est aussi ça notre système de cotisation et de remboursement. Alors, soutenons-le.
Eh bien voilà, ouais, effectivement, ne l'oublions pas, c'est aussi ça notre système de remboursement. Donc sur ce sujet-là, des traitements anti-tabac. À lire également sur votre site internet voixdelhexagone.fr une critique, la critique d'un livre de l'économiste Thomas Porcher, Traité d'économie hérétique, une critique signée Pierre-Henri Paulet, un papier également est là sur les Républicains, Renaissance ou Barreau d'honneur face à la politique macronienne, la capacité de la droite LR à s'affirmer comme une véritable alternative se heurte à de multiples obstacles, des obstacles qui seront réellement et pour autant insurmontable. Et puis enfin, et là vous signez le 7 avril dernier un papier sur l'affaire Skripal, hein, on le rappelle, cette affaire d'empoisonnement de l'ex-espion russe Sergei Skripal il y a un mois, qui a donc entraîné une escalade rapide des tensions dans les relations diplomatiques entre le Royaume-Uni et la Russie. Et justement, et là vous vous intéressez à ces relations et à ces tensions dans les relations diplomatiques entre Royaume-Uni et Russie, et vous vous dites, eh bien finalement, cette affaire Skripal n'est-elle pas la crise d'une civilisation européenne?
Oui, tout à fait, Martin. Parce que derrière cette affaire, comme vous l'avez noté, l'escalade a été extrêmement rapide. La Ligue contre la Russie a été extrêmement synchronisée, pourrait-on dire. Et je me suis intéressée à ce sujet pour voir finalement ce que ça révèle de notre rapport à la Russie, du soft power russe qui est de plus en plus puissant en France, de cette défiance de certains citoyens d'Europe de l'Est envers nos sociétés occidentales pour mieux se rapprocher de la Russie. J'ai tenté de voir en quoi souvent la Russie avait tendance à être un bouc émissaire, ou en tout cas une cible de choix d'un Occident parfois désorienté qui réagit peut-être un peu trop vite sans avoir aucune preuve.
Clairement, et vous écrivez d'ailleurs, hein, notons les erreurs de certains dirigeants comme Emmanuel Macron, qui a tout bonnement snobé le stand russe au salon du livre de Paris. Hein. C'était à quelques jours des élections russes. Et à ce sujet, d'ailleurs, je vous invite également à réécouter notre entretien qui date du 15 mars avec Xavier Moreau, qui est chef d'entreprise français qui vit à Moscou depuis maintenant 18 ans. Et il nous déclarait, hein, je le dis à vous et là, mais également à tous les auditeurs, vous verrez en tout cas les 16 000 supporters français qui se déplaceront en Russie dans les 10 villes de province russes accueillant la Coupe du Monde. Et bien ces 16 000 supporters français verront à quel point les médias français leur mentent justement autour de ce qui se passe réellement en Russie. Alors évidemment, tous ces propos sont peut-être à prendre avec des pincettes, mais ils sont quand même descriptifs d'une situation qui est quand même complexe, hein, Ella.
Oui, tout à fait, Martin.
Voilà, en tout cas, ce que nous pouvions dire à la fois à propos de ce sujet santé, puis également donc au sujet de la Russie. Voix de l'Hexagone.fr, on rappelle l'adresse. Et bien, et là, on retrouve Pierre-Henri, donc des Voix de l'Hexagone, dans 15 jours.
Merci beaucoup, Martin.
Quand la vérité n'est pas libre, la liberté n'est pas vraie. La chronique des Voix de l'Hexagone, à retrouver sur voixdelhexagone.fr.
Pour terminer cette émission, reportage autour des monnaies locales complémentaires. Elles s'appellent Eusko au Pays Basque, Éole du côté de Brest, Sol Violette à Toulouse, Radi en Alsace ou encore le Cerf à Narbonne. Derrière ces noms poétiques se cache une monnaie locale complémentaire de l'euro et tout à fait légale. La France en compte environ une quarantaine à Paris et va bientôt expérimenter la Pêche, une monnaie locale qui existe depuis 4 ans en banlieue parisienne, avec un but, permettre aux citoyens d'acheter local et de soutenir les commerces de proximité, les artisans et les producteurs locaux. Un projet collaboratif et solidaire, et un reportage de Patricia
Lefort. À Alfortville, dans le Val-de-Marne, la Cour Cyclette, une cantine solidaire, accepte la pêche, la monnaie locale. Christelle Roux, habitante et fervente supporteur de la pêche, présente quelques billets.
Donc ça c'est les pêches, ça ressemble à ça, c'est trop joli. Alors 1 euro égale une pêche. Et deux pêches égale 2 euros.
À la table voisine, Anne, qui a pour projet de monter un supermarché coopératif, interpelle Christelle.
J'ai déjà entendu parler de la monnaie locale, mais je ne sais pas comment ça fonctionne vraiment. Et voilà.
C'est une monnaie qui favorise le commerce local. On ne propose pas aux gérants des supermarchés d'adhérer à notre monnaie. On propose aux commerçants, les fleuristes, les bouchers, tous les petits restos, les commerces de bouche, les bars.
La pêche est née à Montreuil en 2014. Elle est devenue la monnaie complémentaire francilienne. Tout juste arrivée à Alfortville, elle a convaincu plusieurs commerçants. Marie-Josée Poiry tient un magasin bio, Le Point Nature.
Bonjour, 1 kg d'orange, s'il vous plaît.
Et voilà, ça nous fait 2 euros.
2 euros. Est-ce que je peux payer en pêche?
Bien sûr, donc ça nous fait 2 pêches.
Pour acheter des pêches, il faut d'abord adhérer à l'association La Pêche Monnaie Locale, puis ensuite échanger ces euros contre des pêches, et les euros collectés sont déposés dans un coffre à la banque. Brigitte Abel est l'une des fondatrices de La Pêche.
On a un fonds de garantie qu'on a placé à la NEF, la Nouvelle Économie Fraternelle, la banque la plus éthique et solidaire de France, et donc il y a une garantie derrière. Ça crée un double circuit monétaire utilisé par la NEF pour des prêts éthiques et solidaires qui aident des petites entreprises à se lancer grâce à la NEF et au fonds de garantie.
Pour Luc Ponchon, membre du bureau de La Pêche, la monnaie locale favorise l'économie circulaire et échappe à la spéculation. C'est donc un acte militant.
C'est déjà de relancer l'économie locale, d'instaurer un réseau de confiance parmi les commerçants, les adhérents et les associations qui vont adhérer à La Pêche. Et puis également, c'est éviter tout ce qui est spéculation financière derrière. Donc il y a quand même des valeurs très importantes dans le circuit de la monnaie locale.
Marie-Josée du magasin bio espère pouvoir bientôt payer ses fournisseurs en pêche.
J'ai contacté l'électricien puisque j'ai des problèmes d'électricité. Donc il va me prendre un petit peu de pêche et j'ai besoin de carte de visite. Donc je me suis dit pourquoi pas aller voir aussi l'imprimeur. Vous voyez, on peut se rencontrer les uns les autres.
Brigitte Abel règle tous ses achats en pêche.
C'est très rare que j'achète quelque chose en euros. On a aujourd'hui à peu près 90 ans. Lieux où on peut dépenser des pêches, donc c'est quand même assez facile de vivre en pêche. Et moi, je suis une pêchue résolument, je dépense mes pêches tous les jours.
Le 12 mai prochain, La Pêche passera le périphérique et sera la première monnaie locale citoyenne de la capitale.